Radio Open FM vous présente Mon corps et moi, le rendez-vous des médecines douces et naturelles avec Jacques Bocquet, magnétiseur.
Et c'est effectivement le coup d'envoi, comme toutes les semaines, de votre rendez-vous bien-être, médecine douce, naturelle, avec Jacques. Salut Jacques.
Salut.
En pleine forme.
Oui, puisqu'on parle du bien-être, autant vous donner l'exemple.
c'est un petit peu
si
mieux.
Si je commence à dire non, je fais la gueule, ça va pas.
C'est pas très vendeur.
Ouais,
bon,
je suis moins crédible.
Plein de choses, évidemment, au programme de cette émission. Mmh. Avant de faire une petite pause tranquillou en musique pour, comme d'habitude, le café et les croissants, un petit coup d'œil sur le sommaire. De quoi as-tu prévu de nous parler aujourd'hui?
Alors, j'ai parlé d'un truc que je sais pas si tu connais, qui s'appelle l'épine calcaire.
Pas du tout.
C'est la maladie. Donc, on verra tout à l'heure, c'est un petit truc qui se passe sous le pied. C'est pas gros, ça fait 3 mm, mais c'est pratiquement vraiment insupportable et c'est très gênant.
Mmh.
Et voilà, ça c'est pour la technique du jour. On parlera de l'ostéopathie.
Ouais.
Enfin, on essaiera d'en parler dans les grandes lignes parce que je n'ai pas la prétention, bien sûr, de parler de mieux.
Nous sommes là qu'à informatif.
L'ostéopathe, voilà. Donc, voilà, titre information. Voilà.
Puis on répondra à des questions.
On répondra à des questions et puis on démarrera tout à l'heure avec une bonne nouvelle.
Ah, en plus. Donc, voilà. Bah écoutez, vous avez les bases de l'émission qui sont posées. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'une petite pause en musique pour vous préparer psychologiquement. Peut-être vous faire comme nous couler un dernier café. Et on démarre ce rendez-vous, mon corps et moi, ensemble jusqu'à midi.
Pourquoi un dernier café?
Oui, c'est vrai. Nous connaissons, c'est loin d'être le dernier.
Premier café.
Jusqu'à midi sur Open FM, mon corps et moi avec Jacques Bocquet. À tout de suite.
Et puisque nos regards se croisent, que leur parfum se mélange, au bord de la Seine ou du Gange, aucune frontière ne les dérange. Et puisque nos regards s'effleurent et qu'on vit tous sous la même lumière, à chacun son emblème, sa couleur, mais nos souffrances sont les mêmes. Oublions ces détails qui nous séparent. Alors laissons-les rêver, revoir le soleil se lever. Alors laissons-leur une chance. Tu sais, riche de leur différence. Laissons-les rêver, un peu s'aimer. Puisque certains rêvent sans cause, que d'autres cherchent le bonheur, que dans leur cœur des bombes explosent, et qu'ils soient ici ou d'ailleurs, oublions ces détails qui nous séparent. Alors laissons-les.
Corps et moi. L'actu santé.
Et l'actualité santé, ce sont vos questions, celles que vous nous faites parvenir tout au long de la semaine, et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, et on vous en remercie, à réagir sur les réseaux sociaux.
C'est aussi pour ça que je suis de bonne humeur.
Voilà, exactement, parce qu'il y a aussi la boutique de Jacques, je suis sûr que vous avez vu passer les messages ces derniers jours.
C'est là que les bonnes nouvelles vont arriver.
Tu veux maintenant ou tu veux qu'on les garde sous le coude pour tout à l'heure?
Comme tu le sens.
Donc, bon, d'abord les questions de nos amis, comme voilà. Ça ce sera fait, ils doivent rester prioritaires. On a pioché, hein, on a eu beaucoup de questions, alors Jacques répondra ensuite directement avec les autres en privé, mais on a choisi deux questions pour qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur ton univers et sur l'univers des médecines douces en général. D'abord, il y a Bruno qui est dans Bazac et qui nous a dit qu'il avait entendu parler du Reiki. Alors évidemment, ça te concerne très directement, qui est une technique qui nous dit qu'il requiert une grande formation et il voulait en savoir un peu plus. Donc bah écoute, on aura l'occasion d'y revenir sans doute hein, sur une technique de la semaine prochainement, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire dans les grandes lignes sur ce Reiki qui effectivement est voilà, demande quand même beaucoup de maîtrise a priori.
Sur la différence entre, donc on le répète, le Reiki et le magnétisme est un don, le Reiki peut se former, peut être une formation.
Que tu
pour
as
être
fait.
Maître Reiki au Japon, il faut 7 ans, donc effectivement on parle de grande formation, mais là on est plus dans le domaine traditionnel japonais et tout, donc voilà, c'est très compliqué. En France on peut devenir maître Reiki à peu près en un an, il faut compter, mais c'est pas une grande formation dans le sens où vous y passez pas un an. Le premier degré, il y a 3 degrés. Le premier degré dure un jour et demi, ça dépend un petit peu de vos capacités intellectuelles. Le deuxième degré dure une journée, le troisième degré dure une journée, mais entre le premier et le deuxième, on demande au minimum 3 mois.
D'accord.
Entre le deuxième
de quoi,
et le troisième,
de pratique
de d'attente.
D'accord.
Pour bien maîtriser déjà le premier degré.
Et c'est quoi alors, quand on passe un premier degré, on sait quoi, il y a de la théorie et de la pratique?
Oui, c'est la théorie et la pratique, on va apprendre à soigner tout ce qui est physique. Sur le deuxième degré, on va apprendre à soigner tout ce qui est mental. Et le Reiki a une facilité, une faculté, c'est qu'on peut associer des symboles qui servent à l'envoi de l'énergie à distance. Donc on peut effectivement travailler sur photo. Et le troisième degré, on va plutôt travailler sur l'âme. Et donc quand on en arrive là, en théorie, on est maître, puisqu'on a eu toute la formation.
Ouais.
Mais souvent, il faut rajouter des journées formation maître, parce que ben, les gens ont la synthèse de la méthode, mais n'ont pas forcément la pédagogie. Donc il faut leur apprendre comment monter un stage, comment faire le stage, comment l'organiser, donc comment ça se déroule. Donc voilà, le premier degré, on va parler, en général, en ce qui me concerne moi, si c'est moi qui fais le stage, on parle des chakras, on parle de l'aura, on parle de toutes les positions physiques. On met les mêmes partout sur le corps, parce que n'oublions pas que le Reiki, c'est la science du toucher.
Donc, habillé.
Comment, capter l'énergie qui nous concerne, comment la redistribuer pour soigner, comment ça se passe, comment on organise un soin, comment, voilà. Donc, on parle de tout ça. Et en général, à la fin du stage, on demande un petit peu de pratique personnelle. Et puis après, on peut commencer quand même à poser ses mains sur les gens et à avoir des résultats sur les douleurs.
Donc, voilà. C'est un coût important aussi, une formation qui représente un investissement.
Pour partir de, on peut partir de zéro sur aucun stage et arriver maître, il faut à peu près entre 1000 et 5000 euros, ça dépend des formateurs en fait.
Voilà, mais c'est pour faire du bien aux autres ensuite. Donc,
et le Reiki a quand même un avantage, c'est qu'on peut s'en servir aussi, même pour soulager des membres de sa propre famille.
Ouais.
Qu'en magnétisme, on est relativement limité quand même.
Ouais, et ça prend de l'essor, on sent que c'est quelque chose qui la preuve avec Bruno, ça éveille la curiosité.
Ça éveille la curiosité, mais en France, on est comme d'habitude, on a 25 ans de retard.
On ne sera plus là pour vous en parler.
Marc, à force d'avoir du retard partout, peut-être qu'un jour, on va finir par arrêter d'être en retard.
Voilà, c'est ça.
Donc, là, en fait, si on veut des chiffres, au Japon, il y a un initié sur 4. On peut initier les enfants à partir de 5 ans. Au Canada, c'est un initié sur 10 000. Et je pense qu'en France, voilà, on est en retard. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une secte. Il y a plein de gens qui ont fait un mauvais amalgame avec le Reiki. Et alors que non, pas du tout. Donc voilà, il faut juste dédramatiser le débat et le remettre un petit peu au niveau de la masse populaire et pas forcément comme quelque chose d'intouchable, d'élitiste au niveau argent et tout ça.
Renseignez-vous déjà auprès de Jacques. Ça ne coûte rien, n'engage à rien d'en discuter et pour voir si vous avez envie de tenter vous aussi l'aventure. En tout cas, merci à Bruno pour cette question. Et puis Lisiane, on aura juste le temps d'une deuxième question ce matin. Lisiane qui nous écrivait de Limoges, qui nous demandait est-ce que les pouvoirs, alors il y a des guillemets, ou les dons d'un magnétiseur s'amenuisent avec le temps. Pas bête ça comme question.
Ils ne s'amenuisent pas avec le temps, ils se bonifient au contraire. Mais par contre.
C'est comme le pinard, d'accord.
Voilà, c'est comme le pinard, c'est pour ça qu'on est souvent.
Vous n'avez pas l'air très net, d'accord.
C'est pour ça, on a tous des tronches un peu de. Tu vois, de
radio.
De déjanté, donc voilà. C'est pour ça qu'on ne fait jamais de télé d'ailleurs. Tu n'as jamais vu d'émission de Mike Magnétiseur. Tu as vu des émissions avec des voyants, mais pas avec des magnétiseurs. Parce qu'au moins on a les tronches de déjanté. Non, je plaisante, mais. Alors, ça s'amenuise si on ne s'en sert pas. Voilà, en fait.
Ah oui, j'ai dit au contraire. Voilà. Si on, est-ce qu'on pratique trop, ça a tendance à épuiser
non.
le truc.
Non, non, au contraire. Ça le bonifie. Ça vraiment, c'est comme une batterie de voiture. Plus on s'en sert, plus elle charge et plus mieux.
D'accord.
C'est-à-dire qu'au début, souvent, par exemple, le magnétiseur va commencer par soigner des verrues, puis après il va soigner des migraines, puis après il va soigner des brûlures, puis après il va arriver à soigner les trois. Puis il va monter d'un cran, il va peut-être soigner une hernie discale, ou une lombalgie, ou une cruralgie, ou une sciatique, etc. Ça monte en puissance. Donc comme ça monte en puissance, ça demande de plus en plus d'énergie. Et comme ça demande de plus en plus d'énergie, ben, le problème des gens qui travaillent à côté, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un travail, qui font magnétiseur en dilettante, on va dire, travaillent moins souvent leurs dons. Et donc à un moment donné, ils sont obligés de se concentrer sur un seul don. Par exemple, il y a des gens qui enlèvent que les verrues ou qui enlèvent que le feu. Parce qu'ils ne peuvent pas donner toute leur énergie à l'ensemble des dons parce qu'ils ont un boulot à côté. La chance que moi j'ai vraiment, c'est que je fais que ça et c'est mon métier, je suis déclaré. Donc c'est vrai que je travaille tous les jours dessus et que par rapport à il y a 20 ans, je sais que je fais beaucoup plus de choses.
Combien de temps en
tout ? 25 ans.
Ouais, 26, quand même. Hein.
Ouais, 26.
Ouais. Comment c'est la radio quand tu commençais le magnétisme ?
C'est vrai.
C'est beau. Hein.
On aurait pu se croiser déjà.
On aurait pu se faire un gâteau d'anniversaire.
Sur des ans.
Franchement, on pense à rien. Bon, bah écoutez, on merci.
C'est déjà pas mal. Oui,
c'est déjà plutôt bien. Lisiane, merci. Bruno, merci également pour vos questions. Vous aussi, n'hésitez pas à interroger Jacques tout au long de la semaine. Vous laissez vos messages sur nos sites internet, réseaux sociaux, numéro de téléphone. Vous avez tout ça qui vous sera rappelé en fin d'émission. Nous, on va souffler un petit peu parce qu'après, un gros dossier nous attend. C'est évidemment la maladie du jour, le maladie, comme on dit, avec la chronique Allô Maman Bobo. On va parler donc de cette épine calcanéenne. Si vous ne connaissez pas comme moi, eh bien, on aura plein d'infos juste après la pause. À tout de suite. People say the meanest things. Yeah, I've been called a dick, I've been called so many things. I know I've done some shit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting. Saw you standing outside a bar. Would've said you're beautiful, but I used that line before. And I had my share of shallow nights, 'cause I was scared to get it right. So I was hanging with whoever, but baby, then you. You love, love, love me, love me better. You love, love, love me, love me better. There's been times I gave myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me, love me better. You, I was treading water. And baby, I know you know I got an eye that wanders. But right now in this car that we're driving to your sister's, all I'm looking for is something that's forever. Baby, then you. You love, love, love me, love me better. You love, love, love me, love me better. There've been people that I've loved before, but they were something lesser, 'cause you love, love, love me, love me better. Truth be told, I don't care what they think. I got someone who is lying in my bed right next to me. Yeah, she love, love, loves me. Love, love, loves me.
lesser than you. Love, love, love me. Love me better.
Vous écoutez Radio Open FM, la radio des Monts d'Ambazac. Bienvenue chez vous.
Ça va se passer vendredi. Comme des flammes, vous danserez jusqu'à l'aube. Sa beauté, l'amour de ta vie, elle te reviendra comme une éclaircie. Tu la reverras ce vendredi, comme des âmes qui volent l'une vers l'autre. Mélodie et Louis, quelques jours avant qu'ils se revoient au paradis, de nouveau ensemble, dans les bras l'un de l'autre.
Et de retour sur Radio Open FM avec ce rendez-vous Mon Corps et Moi et Jacques pour répondre à toutes nos questions, nous donner plein d'infos. Et on l'a dit, on va s'intéresser sur cette nouvelle partie de l'émission, le Allô Maman Bobo, à ce fameux maladie, ce mal qui nous dit beaucoup de choses. Et on va s'arrêter donc sur cet univers que moi je ne connais pas du tout, donc je vais découvrir avec nos auditeurs l'épine calcanéenne.
Voilà, alors on la connaît sous le nom savant de fasciite plantaire.
Bah, je connais ni l'un ni l'autre, comme voilà. Ça au moins, très bien, j'ai plein de choses à découvrir ce matin.
Alors il faut faire attention parce que c'est quand même une, pardon, c'est une blessure au pied causée par un étirement ou une rupture du fascia plantaire, donc ce fameux plancher, on va en parler. Mmh. C'est une membrane fibreuse en fait qui va de l'os du talon jusqu'à la base des orteils. C'est ce qu'on appelle le plancher. Et donc il y a un affaissement de ce plancher ou une rupture. Alors souvent c'est matérialisé quand on fait une radio sur une épine calcanéenne, on voit le talon. Il y a vraiment une forme d'une épine qui serait pointée vers l'extérieur du pied.
D'accord. Et d'où son nom.
D'où son nom. Et effectivement, quand on marche, ça fait un petit peu mal. Pour citer un ordre d'idée, c'est un peu comme si on marchait pieds nus sur une ficelle ou sur un câble électrique. C'est quand même assez douloureux. Mmh. C'est-à-dire qu'on sent vraiment.
On sent qu'il y a quelque chose dessous.
Voilà, ouais. C'est vraiment un endroit très très précis. Et c'est souvent la base du talon. Et ça fait que cette petite épine, chaque fois qu'on marche, ben, ça va avoir tendance à appuyer un petit peu sur l'os. Et ça fait quand même vraiment très très mal. Ça touche quand même 1% de la population. Donc c'est quand même.
Conséquent.
Et alors, il y a une cause bien sûr psychologique, puisque le talon et le pied en général, c'est la difficulté à sortir d'une relation conflictuelle avec un homme ou avec une femme.
Avancer,
c'est aussi la difficulté d'avancer dans la vie. Mmh. C'est la difficulté peut-être de prendre des décisions, des choses comme ça. Donc attention, parce que l'épine calcanéenne en elle-même va provoquer une certaine immobilisation de la personne, voire une certaine immobilité.
C'est-à-dire physique et psychologique.
Et psychologique, c'est-à-dire qu'on n'avance plus dans sa vie, on prend plus de décisions, puisque chaque fois qu'on veut mettre le pied par terre, on a mal. Donc on est complètement immobilisé. Et le problème, c'est que alors c'est très douloureux et en même temps, bon, ça s'opère. Ça, c'est la partie médicale.
Et la bonne nouvelle,
on peut carrément le raboter. Donc voilà, c'est comme voilà, ça va chez Ikea, ils ont des rabots électriques ou je sais pas ce que
c'est comme les bosses voilà, sur le nez voilà, ou voilà, un petit burin et voilà.
Ça se rabote. D'accord. Bon, alors ça s'enlève facilement et ça c'est une opération qui peut se faire je crois qu'on reste 2 jours ou 3 jours hospitalisé, donc c'est quand même assez rapide, mais voilà, ça se soigne d'un côté médicalement, mais on va voir que ça se soigne aussi par d'autres.
Oui, parce qu'on rappelle que nous ici on ne joue pas les docteurs, hein, nous ne sommes pas compétents en la matière, mais on est là pour voilà parler de peut-être est-ce qu'on peut l'éviter par une attitude psychologique. Non,
pas beaucoup,
pas forcément.
Il n'y a pas forcément de soucis de ce côté-là. Enfin, il n'y a pas de solution. Quand ça se déclare, il faut vraiment réduire l'activité. Et moi, je connais des gens qui ne marchent plus du tout. Mm. Tu ne peux plus poser le pied.
Cloche-pied.
Donc, c'est à cloche-pied.
Pas
mais,
très pratique.
Quand t'as 70 ans, c'est peut-être pas facile. Donc, il y a simplement une réduction de l'activité physique. Les personnes qui ont souffert une fois, même si ça ne revient pas, contrairement par exemple à ce qu'on avait parlé une fois dans cette émission d'une hernie discale, qui, quand on s'est opéré, peut revenir. Ouais. 1 ou 2 ans après. Là, a priori, ça revient pas, c'est pas systématique, mais on a toujours peur. C'est-à-dire qu'on va, à un moment donné, ben, on marchera moins par réflexe, on va moins courir, on va moins, parce qu'on aura peur d'avoir mal. Ça s'appelle aussi une aponevrosite plantaire.
On fait une névrose?
Voilà. Le terme aponevrose est synonyme de fascia. Donc, pour ceux qui pratiquent le grec et le latin en longueur de journée, je vous souhaite bien du plaisir. Mm-hmm. Alors, les causes.
D'où que ça vient?
La pratique de sport sans préparation adéquate des muscles et des tendons ou sans équipement adéquat. La course à pied, le jogging, le saut, le sport d'équipe, volleyball, etc. Le ski, le tennis, la danse aérobique et l'entraînement sur un simulateur d'escalier font partie des activités physiques les plus à risque. Donc arrêtez de faire du sport.
C'est ça. Parce que moi j'ai peur de mal me préparer, donc je ne fais pas de sport. Comme
jouer
ça,
aux échecs.
On est tranquille.
C'est un sport cérébral. Non, mais parce que là si on écoute, tu peux plus rien faire. Hein.
Ouais.
Voilà. L'obésité. Il s'agit d'un facteur de risque important de fascite plantaire, notamment parce que l'excès de poids accroît souvent les tensions dans la chaîne musculaire à l'arrière des jambes. Ces tensions se répercutent sur les pieds. Donc, comme je vous rappelle, on parle de la charpente, qui sont les os. Les deux endroits fragiles, c'est les genoux et les chevilles et les pieds. Mmh. Et donc là, on parle d'un affaissement du plancher. Donc, on est bien sous le pied. C'est un peu comme s'il y avait une lame de parquet qui saute. Mmh. Et d'un coup, ben, si vous marchez dessus, vous vous retrouvez à la cave. Donc faites attention parce que effectivement, quand
ça
on prend du poids,
entraîner des choses.
Voilà, quand on prend du poids et surtout là on est dans une prise de poids importante de plus de 10 kilos par exemple, effectivement ça va fragiliser tout le squelette et donc les hanches vont travailler plus, les genoux vont travailler plus, les chevilles et les pieds vont travailler plus. Donc attention. Le port de chaussures qui soutiennent mal la voûte plantaire et le talon, ce qui engendre un déséquilibre biomécanique. Donc c'est tout bête, hein. C'est pas fort. Il y a une cause psychologique, on en a parlé tout à l'heure, parce que je pense et je suis persuadé que toutes les maladies ont une cause psychologique. Là simplement c'est un petit peu le repos forcé, on va dire. Donc voilà, attention quoi. Les talons qui sont trop durs ou trop hauts, ainsi que les chaussures qui ont des contreforts trop mous, ne stabilisent pas suffisamment les talons. Les pieds creux ou les pieds plats, on va dire, après le premier croissant, et la marche ou la station debout prolongée sur des surfaces dures. Et pourtant, vous voyez, on a quand même des illogismes, parce que quand on a affaire à des gens qui sont un petit peu... on va dire spirituel, c'est-à-dire un petit peu élevé, un petit peu allumé, comme on dit, un petit peu, voilà, bizarre.
Comme toi, quoi.
Voilà, un petit peu. Mais moi, souvent, ce que je fais, ben, je marche pieds nus sur le carrelage.
Ouais.
Ça s'appelle l'ancrage à la terre.
D'accord.
Ça s'appelle l'ancrage à la terre, donc ça veut dire que ça force. Donc, par contre, voilà, ben, la station debout, la marche sur des surfaces dures, ça peut entraîner quand même une
épine. Tu es prévenu.
Voilà. On sait que le vieillissement normal du fascia plantaire le rend plus susceptible de subir des déchirures. En effet, les fascias perdent de leur souplesse avec l'âge. Ça, si ça nous disait qu'en vieillissant ça s'arrange, on les croirait pas du tout. Donc voilà. Alors, d'un point de vue physiologique, la fascite plantaire est le reflet d'une inflammation du fascia plantaire. Donc on le redit. Ce fascia recouvre et protège les tendons ainsi que d'autres structures profondes du pied. Il contribue surtout à maintenir la voûte plantaire. L'inflammation apparaît en conséquence et l'usure à cause de l'usure du fascia. S'il est trop ou mal sollicité, des micro-déchirures ou des lésions plus importantes peuvent apparaître. Alors, conséquence, puisque le pied est constamment sollicité par la station debout et la marche, la douleur risque de persister si rien n'est fait pour corriger la situation. Avec le temps, une épine calcanéenne, donc ou fasciite plantaire, que l'on appelle aussi épine de Lenoir, peut apparaître, voir le schéma, et vous regarderez sur internet, c'est le site qui s'appelle passeportsanté.net, puisque c'est un des sites sur lesquels je prends des infos parce que je peux pas tout connaître partout. Donc il y a aussi des petits schémas, et on voit vraiment cette épine qui sort comme ça du pied. Alors ça perce pas la peau, l'épine ne va pas transpercer la peau sous le pied, il y a vraiment l'os qui a cette forme,
vraiment.
Même quand on arrive à passer le doigt, on arrive à le sentir comme ça, ça fait vraiment une petite boule, une petite bosse sous le pied, et donc c'est assez difficile, assez douloureux. Alors, c'est une excroissance osseuse, en fait. C'est même pas des cartilages, c'est osseux. Et alors, le problème, c'est qu'on pourrait penser que quand on marche, comme c'est une petite épine qui fait 2 mm ou 3, l'os va se casser. Et puis, non, il en est
c'est
rien.
C'est costaud.
C'est plus on marche, et plus l'épine se renforce.
Ah oui, ça se renforce. Ouais.
Et en plus, heureusement.
Parce que c'est de l'os aussi, donc ça se durcit, c'est un peu dommage.
Et c'est là où on voit que la nature fait bien les choses. C'est qu'imaginez qu'elle casse ce petit bout d'os là qui est à l'intérieur, il va où?
Ah ben oui, c'est ça. Il va pas pouvoir sortir comme ça.
Voilà.
Donc il vaut mieux qu'il reste entier, peut-être à la limite. À moins qu'on vienne le raboter.
Sauf que plus il reste entier, plus il s'endurcit en marchant, et plus ça fait mal.
Plus ça fait mal.
Alors c'est comment on pourrait l'expliquer, c'est un peu une épine à l'envers, mais elle fait mal, ça pique comme une épine quand même. Donc c'est quand même assez particulier. Donc voilà, c'est comme ça qu'on le sait. Mais bon, alors on l'appelle aussi, pour ceux qui voudraient vraiment les mots complets, oxotose calcanéenne.
Donc, ça, c'est pour les grilles de mots fléchés. Ça,
voilà,
c'est bien.
Ça compte trois. Ça compte triple. Au Scrabble. Exotose, donc ça s'écrit exostose, ça s'écrit E-X-O-S-T-O-S-O, calcanéenne, donc voilà. Alors on dit souvent que c'est une excroissance osseuse assez grosse pour qu'on puisse la sentir sous la peau, comme on a dit. Il peut aussi créer une pression locale au point qu'il faille en faire l'excision. Donc là par contre, attention, vous allez chanter. Reste que le plus souvent, la douleur que l'on associe jadis à cette excroissance s'explique en réalité, par l'inflammation du fascia. La plupart du temps, lorsque celle-ci est guérie, l'épine de Lenoir demeure mais ne provoque aucune douleur. C'est un petit peu comme le principe de la sciatique. La sciatique, on sait que c'est le nerf qui travaille. En fait, la douleur de la sciatique vient du fait que le nerf sort de la gaine et frotte sur la gaine. Et c'est ce frottement qui provoque la douleur. Ben, l'épine calcanéenne, c'est un peu pareil, c'est un frottement qui se fait sous la peau, et ça peut quand même provoquer des douleurs assez difficiles à endurer, surtout que, comme d'habitude, ça arrive quand t'as 70 ans et pas quand t'en as 20, donc c'est encore plus compliqué. Alors, les symptômes.
Ah, comment les
intéressante, voilà. Déjà, c'est quasiment sûr que vous aurez une douleur comme si vous avez planté un clou dans un pied, donc ça, c'est même pas... Douleur au talon. Oh, mon Dieu, comme si on n'avait pas compris. Alors, douleur au talon, légère ou forte selon le cas. Cette douleur se manifeste surtout le matin, au lever. La douleur peut disparaître pour revenir ensuite après une période d'activité physique. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à expliquer en médecine douce. Quand on a mal quelque part, on a mal. Je veux dire, la douleur, c'est pas si on est le matin ou le soir. Et pourtant, il y a certaines pathologies où c'est plus le matin, d'autres c'est plus le soir. C'est comme s'il y avait un petit peu, il y a une horloge interne, mais c'est comme si cette horloge interne était connectée au cerveau, puisque là, on parle de douleur au talon plus forte le matin. Donc, l'épine se réveille le matin en disant, tiens, on est le matin, je vais lui faire plus mal.
Voilà, c'est ça.
Et c'est là qu'on comprend.
Je me reposerai l'après-midi.
Voilà. Alors, donc, les personnes à risque, on en a parlé. Les personnes qui ont les pieds plats ou les pieds creux, les personnes de 45 ans et plus, et surtout, attention, mesdames, je vais pas me faire d'amis, mais c'est surtout vous qui êtes concernés. Donc, c'est surtout, les femmes, et plus que les hommes, je ne sais pas pourquoi. Les femmes enceintes, en raison de leur surpoids.
On y revient.
Voilà. Et les personnes atteintes de diabète ou d'une maladie inflammatoire, comme la polyarthrite rhumatoïde. les facteurs de risque, donc on en a parlé, la pratique de sport, l'obésité, le port de chaussures inadaptées, l'absence de période d'échauffement avant l'entraînement, un travail exigeant et surtout une station debout prolongée. Alors ça, ce qui est marrant, c'est que ça touche aussi certaines pathologies, certaines professions. On va parler plus peut-être des coiffeuses, des serveuses dans les restaurants, des gens qui sont vraiment debout tout le temps, des infirmières bien sûr. Et donc c'est quelque chose d'assez récurrent, c'est toutes les personnes qui travaillent debout et qui piétinent sur place. Attention, il y a quand même un facteur de risque justement de cette apparition de l'épine calcanéenne. Donc il faut vraiment faire très très attention. Après, c'est vrai que la station debout, ça peut entraîner plein de choses. Ça peut entraîner des varices, ça peut entraîner un problème de circulatoire, ça peut entraîner des jambes lourdes, mais l'épine calcanéenne, c'est vraiment quelque chose de particulier parce que quand on l'a eu une fois, en général, on s'en rappelle.
Ouais.
Donc, pour l'éviter...
Bon, toujours quand même par des choses positives.
Voilà, pour l'éviter, en restant dans une méthode médicale, dans un entraînement sportif normal. Mmh. Donc, faire régulièrement des exercices d'assouplissement et d'étirement du fascia plantaire, les muscles du mollet, du pied ainsi que du tendon d'Achille, peu importe que l'on pratique ou pas un sport exigeant, donc voilà, pensez à vous échauffer. Respecter son besoin de repos. Éviter de courir longtemps sur des terrains en pente, sur des surfaces dures, l'asphalte ou inégales. Préférez les chemins de terre battus. Augmenter graduellement les distances lorsqu'on fait du jogging. Alors ça, c'est toujours le même problème. On décide un jour de faire du sport. Un matin, on se lève en disant « je vais faire du sport ». Il faut qu'on se tape 25 bornes le premier jour. Non, non, non. Allez-y cool. Démarrez lentement et vous verrez que vous aurez des résultats beaucoup plus impressionnants que si vous faites d'un coup vite et qu'après vous êtes obligé de vous arrêter. Donc ça, c'est complètement idiot. Faire surtout des exercices d'échauffement et d'assouplissement avant toute activité physique. Maintenir un poids santé pour éviter de surmener le fascia plantaire. Donc, le fameux IMC, l'indice de masse corporelle. Donc, si jamais vous avez un truc qui est de 0,5 au-dessus, attention.
Catastrophe.
Attention. Portez des chaussures qui soutiennent bien la voûte plantaire et qui absorbent les chocs en fonction du type de travail ou d'activité physique. Mais par contre, il y a quelque chose que les gens ne savent pas trop et qu'on ne parle pas assez souvent dans toutes ces méthodes. C'est qu'il y a, quand on marche, le fait de poser le pied par terre provoque des micro-vibrations qu'on ne sent pas forcément. Mais comme on fait quand même des milliers de pas pendant des milliers de jours sur des dizaines d'années, ça fait des millions
de vibrations.
Voilà. Donc c'est pour ça que la première chose qui prend quand vous marchez, ce sont les pieds et les genoux. Parce que cette charpente osseuse, c'est là où c'est les deux premiers endroits qui vont être fragilités par toutes ces micro-vibrations. Souvent, quand il y a des sportifs qui ont mal, par exemple au ménisque ou étirement des tendons croisés et tout, ça fait mal parce qu'on continue à marcher. Mais là, c'est typiquement le cas d'une pathologie qui va faire mal parce que vous allez continuer à marcher. Si vous êtes vraiment un accro et que vous avez besoin de votre exercice quotidien, rassurez-vous, même sur un tapis de marche ou quoi, ça fait mal quand même. Donc, voilà, attention. Portez des chaussures qui soutiennent bien la voûte plantaire. Ça, c'est très important. On peut insérer éventuellement dans les chaussures des petites talonnettes ou un coussinet en forme de cette voûte plantaire, un petit peu voûtée, là, pour maintenir vraiment tout ça. Ajoutez une semelle si vous avez besoin. Remplacez les chaussures dès le premier signe d'usure. C'est peut-être pas la peine d'attendre qu'il n'y ait plus de semelle du tout. Voilà, quand on souligne les courses, bien sûr, ils doivent être renouvelés après environ 800 km.
Comme une voiture.
Voilà, il faut changer les pneus. Sinon, vous risquez un éclatement des pneus dans un virage et c'est grave.
Ouais.
Évitez de rester debout trop longtemps. Ça, c'est les conseils que j'aime bien, surtout si t'es coiffeuse, 15 heures par jour. Tu restes pas debout, tu t'assois.
À ton patron.
Voilà, c'est ça le truc qui est un peu compliqué. J'ai un truc dont je fais une pause.
Donc ça, c'est les petits conseils. Après, on va arriver au terme de notre temps imparti. Voilà. Si on doit aussi, pour revenir sur les médecines douces, si on est victime de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'apaiser? Ça peut passer par quel genre de technique?
Alors, j'ai trouvé justement deux approches complémentaires qui sont intéressantes, puisque comme ça nous fera le trait d'union pour la dernière partie de l'émission. Pour soigner donc la fameuse épine calcanéenne, il y a deux méthodes qui marchent bien. Il y a l'ostéopathie,
d'accord,
qui est quand même très intéressante, et l'acupuncture.
D'accord. Donc, acupuncture, on en a déjà un peu parlé dans l'émission. Voilà. Ça veut dire qu'on va peut-être s'arrêter sur l'ostéopathie?
Oui, tout à l'heure, on va faire un petit.
Oui, parce que je pense que ça fait déjà un quart d'heure que tu es en train de parler tout seul, mon pauvre. Ah, bah oui, le temps passe vite. Hein. J'ai la montre en main, je contrôle tout ça.
Ouais.
L'huissier est dans mon dos. et il me dit là, il lui faut une pause, sinon légalement, vous êtes hors des clous.
Voilà.
Donc, si vous voulez plus d'infos, en tous les cas, évidemment, vous allez sur ce site. On rappelle l'adresse de ce site internet que tu utilises.
Oui, c'est passeportsanté.net.
Passeportsanté.net, voilà, sur lequel vous aurez des éléments complémentaires.
Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que je dis et ce qu'ils vont lire sur le site. Donc, ça peut aussi faire un débat sur l'antenne.
Mais bien évidemment, il suffit juste de nous appeler et on en parlera ensemble. N'hésitez pas à réagir. Nous, on met une petite pause en musique pour souffler un peu et on revient pour parler technique de la semaine. Et vous l'avez compris, ce sera donc l'ostéopathie aujourd'hui.
Thank you. vent souffle si fort, j'ai peur de m'envoler. De froid je me tords sur les pavés mouillés. Je suis à côté de la plaque, mais elle est verglacée. J'ai mis mon anorak parce qu'il va neiger. La couleur est blanche et la peine infinie. Les flocons sur les branches et tout feu, tous les bruits. Les voitures sont pleines de chiens et le monde grelotte. Et nous, pour survivre, on est comme des marmottes. Voilà, c'est l'hiver avec son grand pull gris. Je ne sais plus quoi faire pour aimer la vie. Je suis dans les courants d'air depuis qu'elle est partie. La belle saison, la belle saison. Je croise un ours polaire et la princesse des glaces. Mais je reste couvert à l'abri dans les traces. La nuit tombe si vite, voilà qu'entre chien et loup, tout se précipite, je deviens fou. Voilà, c'est l'hiver, avec son gros pull gris. Je ne sais plus quoi faire pour aimer la vie. Je suis dans les courants d'air depuis qu'elle est partie. La belle saison, la belle saison.
Des mondes en Bazac, c'est Radio Open FM, à retrouver aussi sur radioopenfm.fr.
Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey,
on y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis.
Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, 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 aïe.
Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
Hey, aïe, 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 aïe.
Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
T'es entré dans ma vie, oh ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis.
T'es entré dans ma vie, oh ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
De la semaine.
Et de retour sur Open FM avec la suite, la dernière ligne droite hein, de ce rendez-vous Mon Corps et Moi avec Jacques Boquet, toujours bien sûr présent pour répondre à nos questions, nous informer en tant que magnétiseur et praticien Reiki sur toutes ces techniques de médecine douce et naturelle. On a quitté l'épine calcanéenne il y a quelques minutes, qui donc peut être soulagée, on le disait, par l'ostéopathie. Voilà. Et ce sera donc le thème de notre technique de la semaine. Ostéopathie avec un H, un H à la fin, pas...
Comment ça avec un H?
Il n'y a pas un H après le T?
Pas si, du tout.
Si, si. Si. Ah bon, j'ai eu peur. Dans tout je me suis dit, je me lance.
Pathie, c'est la maladie en fait.
T'as deux doigts de me griller complètement.
Voilà. Ostéo, c'est la méthode et pathie, c'est la.
Alors, bah justement, dis-nous tout sur cette ostéopathie.
Alors, l'ostéopathie est surtout reconnue pour sa capacité à soigner les douleurs liées au système musculo-squelettique. N'est-ce pas qu'elle est facile? Cette forme de thérapie manuelle examine les dysfonctions par la palpation, les tests de mouvement afin de redonner donc, une certaine mobilité aux articulations, aux tissus et aux organes. D'après un essai clinique préliminaire ayant porté sur 20 personnes, c'est pas beaucoup, souffrant justement de cette fameuse épine calcanéenne, l'ostéopathie pourrait contribuer à réduire la douleur. Mais ça ne veut pas dire que ça soigne pour l'instant le problème.
Ah oui, ça apaise.
Ça apaise la douleur. Ce qui est quand même très important parce que l'épine calcanéenne est un des problèmes que rien ne peut... La douleur ne s'arrête pas.
Ouais.
C'est pour ça que c'est quand même très...
Bah, sauf ne pas marcher, on l'a dit tout à l'heure, donc ce qui n'est pas pratique a priori. Non.
Donc après, tu peux rester, si tu veux, sur le divan.
Voilà. Ah, écoutez, et, Open FM,
te faire servir un petit cocktail de fruits en écoutant la radio.
Voilà.
Hein, tout va bien. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est? L'ostéopathie est un système de soins basé sur des techniques de manipulation qui se concentrent sur l'intégralité de la structure corporelle, os, muscles, articulations et fonctions environnantes. C'est une médecine complémentaire. Elle s'intéresse non seulement aux symptômes physiques, mais aussi au style de vie, aux habitudes et l'état global du patient. C'est quand même très important.
C'est pas que les os. Moi, j'aurais pensé que c'était que les os. Non, ça prend, prend en compte beaucoup plus de choses que ça.
D'ailleurs, les champs d'application sont quand même nombreux. Le champ d'application est très très vaste dans l'ostéopathie parce qu'il peut prendre en charge aussi bien des problèmes vertébraux que des problèmes de migraine, de dépression, des problèmes ORL, récidivants par exemple chez un bébé ou chez l'enfant. L'ostéopathe travaille de plus en plus d'étroites relations avec le corps médical institué. Là, quand on parle de corps médical institué, c'est-à-dire on parle des médecins traditionnels.
Que nous ne remplaçons pas, on profite pour le rappeler, bien évidemment.
Bien sûr. Il faut généralement 3 séances pour aboutir à un résultat durable. L'ostéopathie peut rapporter un soulagement, notamment dans les douleurs articulaires, donc lombalgie, cervicalgie, entorse, tendinite. Quelque chose de très important. Moi, j'ai un monsieur qui est venu l'autre fois me voir pour une sciatique. Au bout de 15 minutes, il me disait qu'il avait toujours mal. Je lui ai conseillé d'aller voir un ostéopathe sur l'Ubersac. Et en fait, il est revenu me voir après. Il avait une vertèbre déplacée. ce qui provoquait cette douleur dans la jambe et tout. Et moi, je suis pas, je manipule pas et je fais pas tout ça. Oui. Je sais pas faire.
Voilà.
L'ostéopathe, il va remettre un petit peu le truc dans l'axe. Là, il va tordre un peu dans tous les sens. Et s'il y a une vertèbre déplacée, il va la remettre un peu comme un kiné. Il va faire des massages. L'ostéopathe, c'est plus de la manipulation. Donc, c'est vrai que là aussi, moi, j'aime bien. J'hésite pas à envoyer les gens chez d'autres thérapeutes parce que on peut
les
pas tout faire.
Se complètent les uns et les autres aussi, de toute façon.
Et en même temps, la personne est très contente et c'est peut-être quelqu'un qui reviendra me voir pour un autre problème.
Ouais.
Donc voilà. Ensuite, l'ostéopathie. Donc, on peut jouer sur les troubles digestifs, constipation, diarrhée, ballonnement, l'acidité gastrique, l'hépato biliaire, à la suite d'un traumatisme, d'un choc, d'accident de diverses natures, dans l'accompagnement de la petite enfance, donc régurgitation, colique, nervosité, troubles du sommeil, sur l'asthme, sur les vertiges, les migraines, les bourdonnements, les otites, les sinusites, les bronchites chroniques, donc c'est vraiment très vaste, les états dépressifs, le stress, ce fameux stress qui nous tient tous, donc si vous voulez pas recourir à un maître Reiki ou à un magnétiseur, ben un ostéopathe fait l'affaire.
Ah, moi je pensais que c'était vraiment des trucs physiques, quoi. On est sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines, quoi.
Déficit de l'attention et hyperactivité, aux troubles de la circulation, les jambes lourdes et éventuellement les hémorroïdes. Alors.
Et si j'ai perdu mes clés, là par contre, non.
Non, par contre, un voyant peut faire l'affaire, avec un flash.
C'est ça.
Alors, comment se déroule une séance d'ostéopathe? Mais tout simplement, la consultation est réalisée par des étudiants en général de 4 ou 5e année. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs années.
Un peu de bagage déjà derrière eux.
Voilà. C'est un petit peu comme les internes en médecine.
Mm-hmm,
on leur laisse faire les choses.
Ça fait toujours peur quand on dit interne, mais il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont du bagage. Hein,
ben, ils ont
on les envoie pas.
Voilà. D'études, donc les, je crois qu'on est interne au bout de 5 ans.
Ouais, enfin, mais en tout cas, voilà, on sait qu'ils ne viennent pas d'arriver. Donc, il faut se détendre. Quand on nous dit je suis interne, c'est pas grave.
Je suis interne, ça ne veut pas dire stagiaire.
Voilà, c'est ça.
Ça ne veut pas dire stagiaire. Ça veut dire médecin en apprentissage.
Voilà, exactement.
Mais ça veut dire quand même que c'est quelqu'un qui est capable de faire un diagnostic. Et quand vous débarquez aux urgences à 3h du matin, il est tout à fait habilité à vous dire.
Mais pas entre les mains de n'importe qui.
Voilà, à vous dire ce que vous avez. Donc voilà. Pour ça que c'est bien d'avoir ce genre de choses à dire.
Ouais.
Parce que ben nous on n'a rien. Moi j'ai rien contre les médecins, la médecine officielle. Et c'est vrai que les gens font souvent l'amalgame que interne c'est stagiaire quoi. Donc bon, il peut y avoir des apprentis restaurants, cuisine et serveurs. C'est rare les apprentis médecins, c'est rare.
Et même les plus grands chirurgiens ont été internes à un moment donné.
Donc, et sont voilà. Des fois peut-être le sont encore.
Oui, exact.
Puisqu'ils sont internes, ça veut dire surtout qu'ils sont enseignants dans les CHU, c'est-à-dire les centres universitaires. Donc,
voilà. Changez votre état d'esprit.
Voilà. Mais si on changeait l'état d'esprit sur tout, peut-être qu'on arriverait à des.
Oh, on serait dans un monde merveilleux. Donc,
Voilà. Seulement, attention, l'étudiant, par exemple, de 4e ou 5e année, est obligatoirement accompagné quand même d'un enseignant ostéopathe exerçant depuis plus de 5 ans.
D'accord.
Parce qu'il y a quand même des statuts juridiques et des choses. Entre parenthèses, d'ailleurs, si certains auditeurs veulent s'intéresser à ces médecines douces et parallèles et qui cherchent éventuellement des formations, donc là, on peut le dire, on est sur le site du CESO Lyon, ça s'écrit CESO Lyon.com. Donc là, c'est vraiment un site qui est destiné à la formation d'ostéopathe. Donc on sait que ça dure plusieurs années. Et donc là, c'est très important. Il y a un centre, il y a une école de magnétisme en France, il y a des enseignements de Reiki, il y a de l'enseignement de l'hypnose, il y a tout ça. Donc si des gens veulent peut-être, sentent qu'ils peuvent éventuellement avoir des capacités, veulent changer un petit peu leur vie quotidienne et voir changer de profession, changer de métier, et peut-être devenir ostéopathe professionnel.
Peut-être des débouchés.
Voilà, il y a des débouchés. C'est peut-être les gens, moi, mon avis, il y a des gens qui qui n'osent pas, en fait. Ils n'osent pas assez se lancer dans l'aventure.
Reste 2 minutes, c'est ça que tu cherches à savoir.
Oui, c'est ça que je cherche à savoir,
voilà,
parce que je ne veux pas dépasser. Donc, ils essayent quand même de savoir un petit peu voilà, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui vous amène exactement en consultation. Après, l'ostéopathe donc, poursuit la consultation. C'est quasiment un examen clinique, médical et ostéopathique. Donc attention, afin d'identifier les dysfonctions ostéopathiques et construire son plan de traitement. Donc ce traitement ostéopathique est ensuite présenté à son patient avant d'être réalisé à l'aide de manipulations et de mobilisations diverses. À la fin de la consultation, des conseils avisés seront donnés au patient et un suivi sera éventuellement proposé.
Voilà.
Je voulais voir si on pouvait avoir juste les statuts juridiques. Donc pour ceux qui veulent éventuellement faire la formation, l'ostéopathie est reconnue officiellement en France, alors qu'il y a des choses comme par exemple l'herboristerie qui vient, le diplôme n'est plus reconnu en tant qu'herboriste en France, ça fait 2-3 ans. Par contre voilà, l'ostéopathie est officiellement reconnue en France et ça date du journal officiel de 5 mars 2002, donc c'est très précis. Les décrets d'application qui encadrent cette nouvelle profession le définissent, donc les actes autorisés, ceux qui nécessitent un encadrement médical préalable, le format pédagogique minimum nécessaire à l'obtention du diplôme en ostéopathie, les sanctions aux contrevenants, parce que bien sûr, comme partout, il y a des gens qui s'amusent à prétendre ostéopathe. La seule chose que je peux dire aux auditeurs qui voudraient éventuellement le devenir, cherchez toujours des formations avec un diplôme qui est reconnu. À partir du moment où vous avez ce diplôme qui est reconnu, oui, la formation est chère, oui, elle est longue, oui, ça vaut peut-être le coup parce qu'on a besoin d'ostéopathes, comme on a besoin de médecins, d'infirmières et de magnétiseurs, c'est un tout. Et je pense que la formation peut être intéressante, mais ne tombez pas dans le piège. Cherchez systématiquement des formations avec un diplôme qui est reconnu pour vous donner le droit d'exercer en tant qu'ostéopathe. Dans un petit village, vous aurez toujours une clientèle, il y a toujours un besoin. Donc, c'est important.
Des idées de reconversion professionnelle, peut-être. Voilà, voilà en tous les cas, pour ces infos autour de l'ostéopathie. Et puis, évidemment, la semaine prochaine, autre technique, autre maladie. On aura encore plein de choses à évoquer. On fait une dernière petite pause ensemble, et puis on va conclure cette émission. On va revenir sur la bonne nouvelle, évidemment, puisqu'on vous a mis en appétit depuis le début de l'émission, on n'en a pas parlé. On voit ça dans quelques minutes, à tout de suite.
When darkness falls and surrounds you, when you fall down, when you're scared and you're lost, be slipped away.
Et allez, c'est le moment, Jacques, de conclure cette émission. Après la musique, le moment de se dire au revoir, pour mieux se retrouver la semaine prochaine. Bien évidemment, tu seras de retour à 11h mardi prochain pour d'autres conseils, médecine douce, médecine naturelle, plein de choses à nous faire découvrir. Mais avant de se quitter, tu avais envie quand même de partager évidemment avec nos auditeurs cette bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle, puisque l'autre fois, on avait parlé des fameux ateliers qui ne démarrent pas, tout ça, parce que j'étais en train de faire la peinture. J'ai pas fini la peinture, mais les ateliers sont officiellement en place et peuvent démarrer. Donc au moins les ateliers concernant la radiesthésie, donc c'est l'art d'apprendre à se servir d'un pendule. Mm-hmm. Donc on a des centaines de planches de travail à faire. Les ateliers, c'est à peu près 45 minutes. Ça se passe le jour et l'heure que vous voulez.
Ouais.
J'essaie de grouper les gens pour faire que les gens puissent se rencontrer entre eux. Mm-hmm. Et s'il y a des cas individuels, ça pose pas de problème. Donc voilà, si vous avez envie, besoin, les ateliers de radiesthésie démarrent officiellement. Les ateliers d'huile essentielle démarrent pas pour une simple et bonne raison, c'est que j'attends un petit peu pour commander les huiles essentielles, parce que sur les ateliers, il faut quand même avoir un outil pour travailler.
C'est plus pratique.
Un petit peu pour l'odeur, le toucher, savoir comment on les utilise. Donc voilà, il y a quand même aussi les ateliers de voyance qui sont en cours, puisque là, c'est l'utilisation, l'apprentissage de l'utilisation d'un jeu de cartes. Et on commence avec un jeu qui est très facile, qui s'appelle l'Oracle Béline.
Et ben voilà, donc tout ça, pour en savoir plus, on fait quoi? On va sur Invisio Veritas?
Invisio Veritas sur les réseaux sociaux, et puis sinon, on peut me téléphoner au 09 87 16 81 25.
Et puis ça va se passer à la boutique, évidemment, voilà, de l'Ubersac. Boutique. Belle boutique qui commence à être richement dotée avec plein de choses. Il y a quelques photos grattées sur les réseaux sociaux. Vous allez découvrir tout ça avec des objets qui nous viennent de pays apaisants, de l'Inde, c'est ça notamment?
Oui, de l'Inde, oui, du Tibet, du Népal.
Bah voilà, donc plein de belles choses à découvrir. Donc vous allez pouvoir vous voir enseigner plein de belles techniques et puis repartir les bras chargés de choses sympathiques. Mmh. C'est à l'Ubersac, donc en Corrèze. Et puis bah, avant peut-être que nos amis te rejoignent là-bas, tu seras peut-être de retour avant cela la semaine prochaine avec nous.
Oui.
Mardi 11h, comme d'habitude, oui, pour votre rendez-vous Mon Corps et Moi sur Open FM. D'ici là, passez une excellente journée. Bien évidemment, l'emploi arrive dans un instant. Nos camarades Philippe et Thierry pour Equalizer ce soir. Et puis Régis, Max Music pour votre émission spéciale musique électronique ce soir dès 20h. Moi, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous demain 7h pour le retour du Radio Matin. Et nous, on se dit donc à la semaine prochaine.
Salut.
C'était Mon Corps et Moi, le rendez-vous des médecines douces et naturelles. Partez à la découverte de votre corps et de son langage pour apprendre à mieux vous comprendre. Avec Jacques Bocquet, magnétiseur. À retrouver au 06 59 84 93 58. Et sur les sites et pages Facebook Invisio Veritas.
Laisse-moi rentrer juste pour un soir, le soir. Regarde bien, moi je suis une star.